VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Idrissa Sédoudia et Claire Morin-Gibourg en votre compagnie. Bienvenue à l'édition du jeudi 23 avril 2015. À la une ce soir.
La RDC bien décidée à extrader le transfuge centrafricain, l'ex-ministre Romaric Vomatadier, condamné dans une affaire de meurtre.
Des milliers de Sud-Africains défilent à Johannesburg pour dénoncer les violences xénophobes dont ont été victimes des immigrés africains.
En revanche, pas de marche à Conakry où l'opposition avait appelé à une manifestation, mais à Labé, un protestataire a été tué.
Le président Barack Obama présente des excuses aux familles des deux otages tués par inadvertance en Afghanistan. Et dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal.
Les suites de l'arrestation en RDC de l'ex-ministre centrafricain Romaric Vomitadier, condamné dans une affaire de mœurs à Bangui, il s'était enfui et avait traversé la frontière congolaise. Kinshasa assure vouloir l'extrader. C'est Alexis Tambwe Mwamba, ministre congolais de la justice, qui a mis fin au suspense lors d'une conférence de presse.
Nous avons effectivement dans nos services l'ancien ministre de la jeunesse centrafricain, il était ministre jusqu'il y a quelques mois, qui a été condamné chez lui pour un viol de mineurs et qui a fui la prison, enfin n'a pas fui la prison, il avait demandé une autorisation pour aller se faire soigner. Et de là il a fui, il a traversé le Bangui et il est allé à Zongo. Lorsque nos services ont été informés, nous avons demandé qu'il soit acheminé à Kinshasa. Il est à Kinshasa en garde à vue. Hier, j'étais en communication téléphonique avec le ministre centrafricain de la Justice. Et lorsque nous recevrons une demande d'extradition, nous allons leur expédier dans son pays.
En Afrique du Sud, des milliers de Sud-Africains ont défilé jeudi à Johannesburg pour marquer leur rejet des violences qui ont ciblé ces dernières semaines des immigrés africains et suscité l'indignation à travers le continent. La manifestation à laquelle participaient aussi des immigrés chinois a traversé plusieurs quartiers, dont le très cosmopolite Hillbrow, où vit une forte communauté africaine, coiffeurs nigérians, vendeurs à la sauvette mozambicains et restaurants éthiopiens.
En Belgique, ce soir, les dirigeants européens tentent de répondre enfin au drame des migrants. Rien que cette année, presque 1000 personnes sont mortes en tentant de traverser la mer Méditerranée vers l'Europe. Les précisions d'Echa Grover.
L'Europe déclare la guerre aux trafiquants, a dit Dimitris Avramopoulos, commissaire à l'immigration de l'Union européenne, au sommet des dirigeants européens aujourd'hui à Bruxelles. Les 28 pays s'engagent à tout faire pour identifier, capturer et détruire les bateaux avant qu'ils ne soient utilisés par les trafiquants, selon un projet de déclaration finale obtenu par l'AFP. La Grande-Bretagne, la Belgique et l'Allemagne ont offert des navires et des hélicoptères pour contenir le flux de migrants traversant la Méditerranée. Mais le Premier ministre David Cameron maintient que les migrants ne pourront pas demander l'asile au Royaume-Uni car ils seront emmenés vers les pays les plus proches, l'Italie, la Grèce et Malte. Aujourd'hui, 5 des 28 pays de l'Union européenne accueillent presque 70% des migrants. Les Nations unies ont donc demandé un nouveau plan de l'Union européenne pour renforcer les capacités dans ces pays. L'ONU propose aussi d'écourter le temps nécessaire au traitement des demandes d'asile, un processus qui prend actuellement un an.
En Guinée, l'opposition avait appelé à manifester pour l'annulation du calendrier électoral. Les forces de l'ordre ont été déployées à Conakry où il n'y a pas eu de marche. À Labé, par contre, il y a eu des échauffourées entre forces de l'ordre et manifestants. D'après l'opposition guinéenne, un manifestant a été tué. Sur place, à Labé, écoutons Lali Diallo, un militant de l'UFDG, le principal parti d'opposition.
Aujourd'hui tôt, le matin, tous les militants de l'opposition se sont retrouvés dans les rues de la paix pour faire la marche pacifique demandée par l'opposition. Mais très malheureusement, à 6 heures du matin, tous les carrefours étaient pris par les forces de l'ordre. Même le siège de l'IFTG a été encerclé tôt le matin, mais personne ne s'y trouvait en ce moment. La marche a débuté aux environs de 9h, 9h30. Les forces de l'ordre, elles ont essayé de disperser les gens. Ils ont tiré sur les manifestants de gaz lacrymogène et même des balles réelles. Ils ont même tué un jeune nommé Boubacar Sadio Diallo, âgé de 27 ans, originaire de Dalin. Il est actuellement là à la morgue de l'hôpital régional de la baie. Il y a un accrochage entre forces de l'ordre et manifestants. Toutes les routes sont barricadées, toutes les boutiques sont fermées, toutes les activités sont ralenties à la baie. Il n'y a que jet de projectiles et tirs et gaz lacrymogènes entre manifestants et forces de l'ordre.
Au Bénin, une organisation de la société civile a affirmé avoir relevé de nombreux dysfonctionnements dans la distribution des cartes d'électeurs susceptibles de permettre des fraudes lors des élections législatives prévues dimanche. Le retrait des cartes d'électeurs biométriques, qui a commencé samedi dernier, doit s'achever demain, 48 heures avant le scrutin, pour les 4 470 500 électeurs inscrits. Au Centre national de traitement des cartes d'électeurs, de nombreuses plaintes ont été enregistrées. Les responsables reconnaissent d'ailleurs certaines erreurs liées à des défaillances techniques.
Le procès à huis clos du journaliste angolais Rafael Márquez, poursuivi par 7 généraux pour dénonciation calomnieuse, a été reporté au 14 mai, selon l'AFP. Un accord à l'amiable pourrait être trouvé entre les deux parties.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Barack Obama a présenté aujourd'hui ses excuses aux familles des deux otages accidentellement tués en janvier dans une opération antiterroriste américaine à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Les précisions de Timothée Donangmai.
Selon la Maison-Blanche, l'Américain Warren Weinstein et l'Italien Giovanni Loporto, qui étaient détenus par Al-Qaïda, ont été tués dans un raid mené par un drone américain. Les deux hommes travaillaient sur des projets humanitaires au Pakistan lorsqu'ils ont été enlevés. S'exprimant à la Maison-Blanche, le président Barack Obama a présenté ses excuses personnelles aux familles des victimes pour l'incident.
As president and as commander-in-chief, I take full responsibility for all our counter-terrorism operations.
En tant que président et commandant en chef, je prends l'entière responsabilité de toutes nos opérations de lutte contre le terrorisme, y compris ceux qui ont, par inadvertance, ôté la vie à Warren et Giovanni, a déclaré le chef de l'exécutif américain. Barack Obama a dit à la presse que les renseignements disponibles à l'époque laissaient croire qu'aucun civil n'était sur les lieux du raid et qu'il n'était pas possible de capturer les terroristes visés par l'opération. Selon les autorités américaines, Ahmed Farouk, un Américain et chef d'Al-Qaïda, a été tué dans la même opération. Un autre Américain, Adam Gadan, porte-parole du réseau terroriste, a lui été tué dans une autre opération américaine en janvier.
Et des indemnisations seront versées aux familles des deux otages tués, a fait savoir Josh Earnest, porte-parole de l'exécutif américain, peu après la déclaration du président Obama.
Au Yémen, la coalition menée par l'Arabie Saoudite a poursuivi ses raids contre les rebelles chiites deux jours après l'annonce de la fin de sa campagne aérienne. Eddy Issango.
Ces raids se poursuivent alors que le gouvernement saoudien avait annoncé mardi la fin de la phase intensive des frappes. Sur le plan diplomatique, les premiers ministres du Pakistan, qui refusent pour le moment de s'associer à l'intervention militaire de la coalition arabe, est arrivé aujourd'hui à Riyad pour discuter du Yémen. Les autorités pakistanaises avaient salué l'annonce par Riyad de l'arrêt de la campagne des raids intensives au Yémen. Les rebelles houthis exigent l'arrêt total des raids aériens avant une éventuelle reprise du processus politique sous l'égide des Nations Unies. Ils ont salué les efforts positifs des Nations Unies et leur soutien déclaré au dialogue national, alors que l'Arabie Saoudite et ses alliés semblent préférer un processus régional. L'Organisation mondiale de la santé a fait déjà état d'un bilan d'un millier de morts et de 4352 blessés, civils et militaires, au Yémen depuis le 13 mars. Avant.
En France, oui, parlons de la France maintenant. Le Premier ministre Manuel Valls a déclaré aujourd'hui que la menace terroriste n'a jamais été aussi importante et que la police a déjoué au moins 5 attentats depuis 2013, dont l'arrestation dimanche de l'Algérien soupçonné d'avoir projeté une attaque contre une église catholique. Monsieur Valls a ajouté dans une interview à France Inter que des centaines de ressortissants français sont actuellement en Syrie où ils pourraient être radicalisés.
Plus de 500 000 personnes meurent chaque année des suites de la malaria. En 2013, il y a eu 198 millions de cas de paludisme dans le monde et 584 000 morts.
Et maintenant, la Minute Éco avec Camille Grodier.
Le conseil d'administration du Centre africain du riz, Africa Rice, actuellement basé à Cotonou au Bénin, a entamé les démarches nécessaires au retour du siège de l'organisation à Abidjan, Côte d'Ivoire. Un communiqué précise que le transfert de la plupart des fonctions du siège dans le nouvel emplacement devrait être chose faite d'ici à septembre 2015. Pour encourager ce retour, l'administration Alassane Ouattara aurait offert à Africa Rice des locaux à Abidjan. La Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, une bourse commune aux 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a choisi le London Stock Exchange pour organiser la deuxième édition des BRVM Investment Days. Les journées BRVM pour les investissements, signalent les médias ivoiriens. La bourse organise une rencontre de haut niveau à la Bourse de Londres le 28 avril 2015. But de l'opération, présenter le marché financier de l'UOMOA aux investisseurs internationaux, notamment britanniques. Et puis, chute des prix du cacao au mois d'avril au Cameroun. Selon l'agence APA, le prix d'un kilogramme se négocie actuellement à 1250 francs CFA contre 1450 francs CFA au début du mois. Un manque à gagner est considérable pour les producteurs.
C'est moi. Voilà pour la Minute Éco. Merci Camille Grodidier. Nous a rejoint pour notre page sport. Bonjour Bagassi.
Oui, bonsoir Claire, bonsoir à tous.
En foot, quart de finale de retour de la Ligue Europa, Bagassi.
Oui, c'est la Ligue Européenne. Le Zénith Saint-Pétersbourg reçoit FC Séville. La Fiorentina accueille le Dynamo de Kiev et l'autre club ukrainien, s'il vous plaît, Dnipropetrovsk joue contre le FC Bruges. C'est du russe, donc peut-être Idrissa pourrait aider à mieux prononcer.
Oui, Tovaric.
En football, suite et fin hier des huitièmes de finale de la Ligue des Champions en Europe.
Oui, la Juventus Turin s'est hissée en demi-finale en obtenant un nul 0-0 mercredi à Monaco. Quant au Real, après le 0-0 de l'aller face à son rival de l'Atlético Madrid, il a remporté le match retour 1-0, but de Chicharito Hernandez à la 88e minute. Le tirage au sort des demi-finales aura lieu demain vendredi à la mi-journée au siège de l'UEFA à Nyon en Suisse.
Et une bonne nouvelle pour Abidjan, qui pourrait avoir un stade olympique d'une capacité de 60 000 places.
Oui, dans de nos amis chinois, la Chine sera construite à partir de 2016 en vue de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021. Une cité olympique sera également construite autour du stade, bâti sur une superficie de 20 hectares dans la commune d'Anyama. C'est au nord d'Abidjan, c'est ce qu'a indiqué l'AFP, le service de communication du ministère des Sports. Les travaux d'une durée de 24 mois débuteront en janvier 2016, selon le même communiqué du gouvernement.
Et donc, pour finir, la NBA avec Kawhi Leonard, désigné meilleur défenseur de la NBA.
Voilà, l'ailier fort de San Antonio Spurs, Kawhi Leonard, a été élu meilleur défenseur de la NBA. Leonard, 23 ans, succède au pivot franco-américain des Chicago Bulls, Joakim Noah, le fils de l'autre, distingué à l'issue de la saison 2013-2014. Leonard, élu meilleur joueur de la finale 2014, remportée par son équipe.
Et peut-être quelques résultats des playoffs.
Oui, Atlanta a battu Brooklyn 96-91, ce qui lui fait 2-0 dans la série. 2-0 également pour Memphis après sa deuxième victoire sur Portland 97-82. Quant à San Antonio, il a surclassé les LA Clippers 111-107. Les deux équipes sont à égalité, un but partout et une victoire partout.
Pardon. Oui, alors l'autre c'est Yannick Noah.
Voilà, l'autre c'est Yannick Noah de votre génération. Le papa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Idrissa Sédoudia et Claire Morin-Gibourg en votre compagnie, place au dossier du jour. C'est donc le dernier jour de campagne au Togo. Les deux poids lourds font leur dernier meeting dans leurs fiefs respectifs. Faure Gnassingbé, le président sortant, est à Kara. Et Jean-Pierre Fabre, son challenger, tient un meeting au stade de Lomé. Contrairement aux autres années, la campagne s'est déroulée sans violence. Écoutons Marie Dogbé de l'organisation Synergie Citoyenne pour des élections démocratiques.
Nous avons constaté que tous les candidats ont pu quand même cette fois-ci circuler librement sur l'étendue du territoire. Et même les partisans des candidats se sont croisés dans les rues, dans les villes, et il n'y avait pas de bagarre ni de provocation comme dans les années passées. Donc la campagne s'est passée dans le calme et sans violence, et tout le monde, tous les candidats avec leur convoi ont circulé librement dans les villes, dans les villages, et partout sur toute l'étendue du territoire, c'est ce que nous avons observé.
Qu'est-ce que vous dites au sujet de cette querelle autour du système informatisé de transmission des résultats?
Oui, bon, et là, c'est les techniciens qui ont en train de faire des remarques et qui ont même envoyé des lettres au niveau de la CENI. Mais nous, organisation de la société civile, nous sommes en train d'observer tout ce qui se passe et ce qu'ils ont prévu. Nous attendons pour voir comment ça va fonctionner et savoir ce que nous allons dire. Parce que là, à l'état actuel des choses, nous n'avons pas de preuve technique pour dire ceci peut marcher ou ceci ne peut pas marcher. C'est aux politiciens de faire ces remarques qu'ils sont en train de faire et nous sommes en train de suivre l'évolution des événements.
Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à des contestations des résultats?
Ce qui est sûr, quand il y a des problèmes, il y a des griefs qui sont déjà soulevés, ça porte et plus ou moins atteinte à la crédibilité de la chose. Alors nous disons que comme il y a cette fois-ci, les partis prennent des décisions responsables en envoyant des courriers en bonne et due forme, nous pensons que de l'autre côté, l'institution chargée de l'organisation, la CENI, qui aussi est une institution responsable, qui cette fois-ci prouve qu'elle veut vraiment faire les choses dans la transparence, nous espérons qu'ils vont réagir et essayer de voir avec eux ce qu'il y a lieu de faire pour éviter qu'il y ait des contestations à la fin. C'est ce que nous essaierons et c'est ce que nous souhaitons.
Est-ce que vous attendez à des résultats proclamés assez rapidement, en 2-3 jours par exemple?
Oui, c'est ce que nous essaierons, puisque vu les dispositions que la CENI lui-même dit avoir pris et puis tout ce qu'ils sont en train de faire, nous disons, nous pensons, nous espérons que normalement, si tout va bien, en 48 ou 72 heures, nous devons déjà avoir les résultats. Et c'est ce que nous souhaitons d'ailleurs.
Marie Dogbé, de Synergie Citoyenne pour des élections démocratiques, elle a été jointe à Lomé par Bagassi Koura.
La Voix de l'Amérique au Togo, sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
La signature de l'accord de paix d'Alger sera-t-elle synonyme de paix? C'est à cette question que les différentes communautés des régions du nord du Mali tentent actuellement de répondre. Les différentes communautés vont se donner la main aussi pour accélérer le retour des personnes déplacées et des réfugiés. Une question d'importance pour les populations. Le point avec Kassim Traoré.
Toutes les communautés présentes à cette rencontre ont salué la future signature de l'accord d'Alger le 15 mai prochain à Bamako. Mais elles doutent que cette signature soit synonyme du retour de la paix au Mali. Baba Ouldou Sidi Mohamed, maire de la commune de Tilemsi.
Nous n'avons pas voulu parler du système de mouvement et l'État parce que nous savons que l'État est en train de parler avec les. Mais ce qui nous préoccupait, c'était le voisinage, c'était le vivre ensemble. Même s'il y a signature, même s'il y a accord, comment ces gens vont se regarder? Comment les voisins vont continuer à leur voisinage. Donc nous sommes plutôt attelés à essayer de recoudre et de réconcilier les voisins.
Le vivre ensemble était le thème principal de la récente caravane que les leaders du cercle de Goundam ont organisée. Abdul Majib Ag Mohamed Dinasser, chef de la tribu Kel Antassar.
Dieu merci, nous avons fini cette caravane sans incident. Nous avons été accueillis par toute la population noire et blanche, la jeunesse et les femmes. Tout le monde nous a accueillis. Ce que nous, on a mis sur place, sur le terrain, c'est les comités de veille. Ils vont continuer à faire faire le travail après nous. La deuxième étape, c'est que nous risquerons d'organiser une autre encore caravane. En ce moment, ce sera les sédentaires qui vont aller voir les nomades. Et je pense qu'avec les deux caravanes, le Gundam va retrouver sa tranquillité.
Selon l'ancien député Alassane Abba, c'est l'absence de l'État qui a créé un vide, donnant occasion à l'installation de banditisme dans certaines localités.
Bon, vous savez que tout le monde sait qu'au Mali, ça ne va pas depuis des années. Au Nord, par exemple, il n'y a pas d'État. Tout le monde le sait, il n'y a pas d'armée. L'État est quasiment inexistant. Personne ne peut encore bouger. Prenez par exemple l'axe Tombouctou-Gundam. C'est un axe pratiquement coupé maintenant. Personne ne peut quitter Tombouctou, venir à Gundam sans être rançonné, sans être arrêté, sans être dépouillé de ses biens. Il y a des enlèvements de véhicules.
Quant à l'ancien Premier ministre, Mohamed Ahmed Agamani, il souhaite le retour des réfugiés.
Chacun veut prendre au niveau de ces réfugiés-là quelque chose. Alors, pour éviter tout ça, j'ai dit déjà, dès le départ, il fallait initier le retour. Il faut que ça soit ou les populations, donc localement, ou bien que l'administration malienne puisse dégager les moyens pour faire retourner ces ressortissants qui veulent revenir.
Les communautés sont décidées à se donner la main afin de faciliter le retour de tous les réfugiés. Badja Ag Amatou, député de Menaka.
Nos parents sont restés alors qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont l'otage de quelques individus qui veulent servir leurs seuls intérêts. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire la paix tant que des hommes qui se disent autochtones et responsables de nos communautés sont encore hors du pays. Il faut qu'ils acceptent de rentrer. Il faut qu'ils acceptent de rentrer.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Du nouveau dans la lutte contre le virus Ebola, une équipe de chercheurs de l'Université du Texas, associée à la compagnie canadienne Tecmira Pharmaceuticals, vient de développer un traitement expérimental appelé TKM Ebola. Dans un essai effectué sur des singes, ce traitement s'est montré efficace contre le virus Ebola, selon un article publié dans la revue Nature. Le docteur Dambitan Kossi, chercheur à l'université Johns Hopkins, fait le point sur ce nouveau traitement.
Ils ont fait une avancée majeure dans la quête pour un traitement efficace, ciblant particulièrement l'espèce du virus Ebola qui a ravagé l'Afrique de l'Ouest. Pour mémoire, jusqu'à présent, un traitement similaire, celui de ZMapp par exemple, a été administré plutôt dans l'espèce Zaïre. Cela étant dit, ce traitement est un peu comme le ZMapp. C'est une compagnie américaine, Tecmira, qui l'a mise au point. Il y a eu des études in vitro. Et l'efficacité a été mise au test dans 6 singes macaques.
Ce nouveau traitement vous apparaît-il très encourageant ?
Bon, c'est un traitement qui a des promesses, mais nous ne sommes qu'à l'aube. Hein. C'est une course de fond. Nous sommes à l'étape de l'expérimentation dans l'espèce animale. Il faudra maintenant, après avoir ajusté la dose, commencer l'expérimentation dans l'espèce humaine. Et si ces promesses-là sont maintenues, ce genre d'essai clinique ne pourra démarrer que peut-être en fin d'année, sinon en début d'année prochaine dans l'espèce humaine.
Et en général, il faut combien de temps entre les débuts des essais sur l'espèce humaine et l'arrivée des médicaments et des traitements dans les pays concernés ?
Là, vous savez, hein, des fois, nous parlons de plusieurs années, hein, parce que on peut démarrer une expérience, mais on ne sait pas avec les aléas du terrain et le financement et beaucoup d'autres imprévus, et on ne sait jamais. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu autant de ressources qui ont ciblé le Ebola. Et je trouve que ça, c'est un développement très, très encourageant.
Le docteur Dambitan Kossi, chercheur à l'université Johns Hopkins, ici aux États-Unis. Jusqu'à présent, aucun traitement contre le virus Ebola n'a été homologué, mais plusieurs molécules, certaines expérimentales et plusieurs vaccins ont été testés ou sont en cours d'évaluation.
La NBA, bientôt en Afrique, la Ligue nord-américaine de basketball professionnel, jouera le 1er août prochain son tout premier match d'exhibition sur le continent. Celui-ci mettra aux prises à Johannesburg Team Africa, conduite par le Britannique d'origine sud-soudanaise Luol Deng de Miami et Team World mené par l'Américain Chris Paul des Clippers de Los Angeles. Timothée de Nangmaï a demandé à Eugène Pewa-Pelema, ancien joueur et ancien entraîneur adjoint de l'équipe centrafricaine de basketball, la portée de cette rencontre de la NBA en terre africaine.
Je pense qu'il est très important pour la simple raison que, un, ça développera le basketball sur le continent africain qui a un très grand potentiel humain, mais aussi ça peut être un moyen de développement socio-économique, création d'emplois, si on professionnalise le sport à une échelle continentale.
Des Africains comme Hakim Olajuwon ou encore Dikembe Mutombo se sont illustrés au sein de la NBA. Où se situe la représentation du continent aujourd'hui?
Mais aujourd'hui, on a de nombreux joueurs, hein, soit qui jouent pour leur pays d'origine ou qui jouent pour un autre pays. J'en citerai quand même un petit nombre. Il s'agit par exemple des Camerounais Luc Mbamute et Joel Embiid à Philadelphia Sixers, du Congolais espagnol Serge Ibaka, du Congolais RDC Bismack Biyombo, du Soudanais anglais Luol Deng, du Nigérian Aminu Al-Farouk, du Sénégalais Djeng Gorgui ou encore des Nigérians Ezeli, Yudo, Ghanéen Vonley, Noir, Nigérians Grecs Antetokounmpo Giannis ou encore des Nigériens Américains Guadala, Boris Diou, Sénégalais Français, Joaquim Noah Camerounais Français, Tim Capella Suisse Angolais, Cephalosha qui est un Suisse sud-africain, ou Ladipo qui est un Ghanéen, Nigérian américain, ou encore du Nigérian Onoaku, Azimze. Donc je peux dire qu'aujourd'hui en NBA, il y a de nombreux joueurs africains et même ceux qui ont évolué dans des pays, disons, européens. Cela prouve qu'il y a un énorme potentiel qui peut être développé sur le continent africain.
Quel est le potentiel de l'Afrique en matière de basketball?
Le basket africain a fait d'énormes efforts, mais doit en faire encore un peu plus parce que le basketball n'est pas encore pratiqué sur un plan professionnel, ce qui fait qu'il y a une marge de progression qui est énorme pour rattraper, que ce soit le continent européen et même le continent américain, les Sud-Américains. Mais le potentiel humain est là. C'est le continent où il y a quand même 1 milliard d'habitants et ce continent est béni sur le plan naturel, la taille, le poids, certaines facilités à pratiquer ce sport. Maintenant, il revient à y investir et à développer, que ce soit les formateurs, les conditions de jeu pour développer ce sport au plus haut niveau.
Eugène Pewa-Pelema, ancien membre et ancien entraîneur adjoint de l'équipe centrafricaine de basketball, joint à Gettysburg dans l'État du Maryland.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Aujourd'hui, African Music. Nous allons aussi continuer avec notre sujet hebdomadaire. Comment rompre une relation amoureuse de façon élégante sans blesser votre ex? La rupture amoureuse peut être difficile et douloureuse pour certains. Alors comment rompre en douceur? Envoyez vos réactions par SMS au 225-5892-8540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez aussi au 001-202-619-3140. Encore une fois, c'est le 001-202-619-3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Nos salutations ce matin à nos amis de Kinshasa qui nous écoutent sur Raga FM. Peace Africa!
Voilà, c'est la fin de cette édition. Ainsi va le monde aujourd'hui.
Oui, et puis nous avions à la mise en onde ce soir Lionel Gahima, à la présentation vous-même, Claire Morel-Gibourg et Idrissa Seloudia.
Et oui, c'est ce qu'on vous disait. Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma,
96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.